Au fil des mots, une émission proposée par la médiathèque municipale de Lafitte Vigordane.
Et nous retrouvons pour ce mois-ci Luc Serrano, qui est responsable de la médiathèque de Lafitte Vigordane, avec Catherine Fornet, qui elle est auteure, mais aussi elle est bénévole à la bibliothèque.
Oui, tout à fait.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler au fil des mots, des actualités qui se passent à la médiathèque.
Alors les actualités actuelles concernent simplement une exposition qui est en place à la médiathèque, qui s'intitule « Les abécédaires d'Anne Berthier ». C'est une suite de panneaux où cet artiste a décoré chaque lettre de l'alphabet à sa façon. Disons que c'est assez didactique et c'est peut-être réservé un peu aux jeunes enfants plutôt qu'aux adultes. Par contre, on a mis au point le programme des animations du deuxième semestre et on peut d'ores et déjà vous annoncer ce qui va se passer. Le 8 juillet, on aura une soirée conte avec notre ami Pierre Ricard, qui est bien connu à Radio Galaxie, et son association Cricrac. Cette soirée se déroulera dans le village en fin de journée et certainement se déroulera sous la forme d'une balade contée de nuit à travers les rues du village avec des points d'arrêt et de belles histoires à entendre, je présume. Le 17 septembre, la médiathèque participe avec le CCAS à la journée du patrimoine en co-organisant un rallye ouvert à tous. Les réponses aux questions qui seront posées à ce rallye pourront être vérifiées dans une exposition qui aura lieu à la médiathèque sur, évidemment, le patrimoine des environs. Le 28 octobre est déjà programmée une soirée café-théâtre. On y retrouvera une compagnie qui est déjà venue chez nous, qui a eu assez de succès. C'est la compagnie Abisto, qui l'an dernier nous avait présenté sa pièce Funerarium et qui cette année revient avec une nouvelle pièce, une nouveauté, qui s'intitule « Les voisines ». Cette pièce a toujours été écrite par Nathalie Albar. Pour la suite, m'a écouté une belle surprise, et je pense que Catherine va vous en parler. C'est quelque chose qui est prévu pour le mois de décembre.
Le 17 décembre, exactement. Nous organisons une fête du livre et de l'image. Ce sera un salon avec tous les auteurs locaux et régionaux. Alors, local, régional, voilà, c'est vaste. Hein, ça peut aller jusqu'à, disons, jusqu'à La Rochelle. Hein, soyons larges.
Ah, soyons fous.
De Alès à La Rochelle, par exemple. Donc, tous les auteurs qui sont intéressés, qui ont publié des livres, ça peut être des livres pour enfants, pour adultes, des livres avec illustrations. Donc, nous accueillons aussi les illustrateurs qui sont intéressés avec leurs livres. Ils pourront vendre, exposer leurs livres, expliquer un peu aux gens qui viendront, à la nombreuse population qui viendra, comment ils ont fabriqué leurs livres. Enfin, il y aura aussi sans doute des ateliers, mais ça, on vous en dira plus la prochaine fois. Voilà, ça, pour l'instant, ça s'appelle Lafitte en livre.
Oui.
C'est le nom de guerre, disons.
Hein, oui.
Le nom de...
Si on est un auteur, comment on fait pour justement venir à ce salon ce 17 décembre?
Il suffit de se manifester par mail, je pense, auprès de la médiathèque. Le mail étant médiathèque.lafitte@wanadoo.fr. Et sinon, par téléphone aussi, je pense qu'il y a moyen de téléphoner. Ça sera gratuit pour les auteurs. Hein, pour l'instant, c'est ce qui est décidé. Gratuit pour les exposants, disons.
Oui.
Hein.
Donc, si on est un auteur, on peut se rapprocher de la
Tout
fuite
à fait. Nous
de
attendons,
la médiathèque.
Nous attendons des candidats.
Très bien. Ça, c'est une très, très bonne idée. On vous souhaite bien sûr d'avoir beaucoup d'auteurs et que cette fête du livre et de l'image soit présente désormais à Lafitte. Comment vous est venue cette idée?
Elle nous est venue parce que nous sommes tous les deux de jeunes auteurs.
Oui,
oui, tout à fait.
Et que nous avons nos propres livres à divulguer, que nous aimerions bien en faire partager à un plus grand nombre. Et on s'est dit qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, il n'y a pas de salon dans les environs immédiats, si ce n'est sur Caser, C'était au mois de juin, je crois.
Oui, mai ou juin. Oui,
oui, Cazères et Sainte-Foy de Pérolières, je crois, où ils en font un, mais c'est quand même assez loin.
Oui, voilà. Oui. Et en plus, on s'est dit aussi qu'on voulait un salon réservé à des gens qui n'avaient pas une grande notoriété, justement, pour leur permettre de rencontrer du public. Et on a évité de mettre à l'intérieur de ce salon, on va éviter de mettre des têtes d'affiche, comme l'on dit. Parce que, par expérience, quand on se retrouve dans un salon où il y a un auteur très connu, souvent on voit passer beaucoup de gens devant soi, mais très peu s'arrêtent parce que tous vont vers la personne qui est la tête de l'affiche. Donc on s'est dit, nous, on va essayer d'éviter ça, on va réserver ça à des auteurs moins connus. Mm-hmm. C'est pour ça que déjà qu'on se limite au local et le régional, bon, La Rochelle, peut-être, mais c'est un peu loin. Hein, on en avait discuté et on s'était dit que la zone devrait correspondre à la zone de diffusion de Radio Galaxie.
Ah, ça c'est bien. Donc à peu près 80 km dans un rayon de Rieux.
Voilà. Très bien, parfait.
C'est parfait.
Voilà. Parfait. Bien qu'on entende Radio Galaxie beaucoup plus loin. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai.
Oui. Une dernière chose, c'est que ça rentre aussi dans l'animation du village de Lafitte, puisque Lafitte, depuis plusieurs années, a une manifestation qui s'appelle Lafitte en scène, qui est réservée à la musique et au spectacle. Depuis l'an dernier, il y a Lafitte en chœur, qui est un week-end réservé au chant choral et à la musique. Et donc maintenant, il y aura Lafitte en livre, qui sera réservé au monde de l'image, de l'écriture et de l'édition.
C'est important, finalement, vos petites manifestations, parce que vous développez la culture et vous la mettez vraiment au cœur de la France profonde, au cœur du monde rural. Et ça, je suppose, Luc, comme vous avez déjà dit, ça fait longtemps que Lafitte sur scène existe, il y a du monde qui vient.
Oui, on a du monde qui vient. Lafitte sur scène commence à être connue, donc il y a du monde qui vient. Le Lafitte en chœur, qui n'a eu qu'une année d'existence et qui va être renouvelé cette année, a quand même fait le plein l'an dernier sur une soirée de samedi et un spectacle le dimanche. Donc on espère que notre Lafitte en livre aura aussi le même succès et drainera une certaine tranche de population qui se retourne plutôt vers ce genre de culture
tout
littéraire.
À fait. Et une belle culture, je l'avoue. Merci beaucoup donc pour toutes ces animations. Et on demande, Radio Galaxie, à mesure, vous informera aussi des dates. Et donc, n'oubliez pas, si vous êtes auteur, de vous inscrire déjà pour ce salon du 17 décembre, la fête du livre et de l'image à Lafitte. Les coups de cœur littéraires, il y en a deux pour ce mois-ci. Vous avez choisi Le lecteur de Jules Verne.
Oui, c'est un livre que je viens de terminer. Pas tout à fait, à vrai dire, pour être honnête. Je suis en train de terminer et j'ai hâte d'arriver à la fin. C'est un livre écrit par Almudena Grandes. C'est une auteure espagnole qui est de notre époque. Elle est née en 1960 à Madrid. À l'origine, elle est historienne, donc elle se base beaucoup sur sa connaissance de l'histoire. Et elle est fascinée par tout ce qui s'est passé en Espagne au moment de la guerre civile, bien sûr. Et après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à nous montrer tout ce qui s'est passé après la guerre. Son roman le plus célèbre, c'est Le cœur glacé. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, certains l'ont lu, parce qu'il est très, très connu. C'est un gros pavé d'une longue fresque savoureuse et foisonnante qui raconte la vie, les vies de deux familles madrilènes, l'une rouge et l'autre bien sûr franquiste, et qui se déchirent bien sûr pendant pratiquement un demi-siècle. C'est très très passionnant parce qu'on suit les gens, les personnages personnellement dans leur vie quotidienne, dans leurs amours, leurs conflits. C'est vraiment très très passionnant. Quand on a commencé, on ne peut plus le lâcher, c'est bien mieux qu'un polar. Et là, celui que je viens de terminer, ou presque, elle l'a écrit en 2012. Il s'appelle Le lecteur de Jules Verne. Il se passe en Andalousie, dans un tout petit village, comme il y en a beaucoup là-bas en Andalousie, dans la Sierra de Jaén. L'histoire commence en 1947, en 1947, donc quelques années après la fin de la guerre. Et Franco est déjà, bien sûr, installé au pouvoir depuis un certain temps. Et elle est racontée, cette histoire, par un petit garçon qui s'appelle Nino, qui a 9 ans au début du livre. Alors, le livre se déroule sur plusieurs années. Et il voit tout ce qui se passe dans son village. Il comprend pas, bien sûr, à 9 ans, ses parents lui cachent un peu la réalité des choses.
Oui.
Il voit, il entend dans sa chambre, il entend les cris de gens qu'on torture à côté, parce qu'il habite dans la caserne du village, la maison caserne. Son père étant garde civil. Donc le père participe bien sûr aux tortures des rouges quand il arrive à en attraper. Lui, a priori, le père, il était plutôt républicain, mais il faut vivre et il a été engagé, comme beaucoup, on ne le sait pas ça, mais beaucoup de gens là-bas étaient obligés de travailler avec les franquistes après, bien sûr, après la guerre. Et donc c'est une vie quotidienne là-bas très, très difficile, parce qu'il y a beaucoup de rouges qui rôdent dans la campagne, dans la Sierra, et il faut éviter de les rencontrer pour pas les... Non, là, tu coupes là.
Oui.
Je reprends. Nino, donc à 9 ans, ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais oui, son père à la maison est très gentil. Son père est un bon père en plus, il s'occupe bien de ses enfants. Mais il doit obéir aux ordres. Donc il pourchasse les républicains. Mais heureusement, des fois, quand même, il est son instinct, ses valeurs ressortent et il arrive à court-circuiter un peu les ordres. Il n'obéit pas toujours exactement. Il est vraiment sur une corde raide, comme beaucoup de gens à cette époque-là, parce qu'il doit quand même protéger sa femme et ses enfants. Il ne peut pas perdre son boulot non plus. Il recherche en particulier un chef rebelle célèbre, dont la présence est signalée un peu partout, un peu comme un Zorro. C'est vraiment il est issu de la terre de là-bas et tout le monde l'admire parce que lui, il a osé résister.
Mm-hmm.
Et il a réussi à recruter des gens, d'ailleurs, parmi tous les paysans de là-bas. Et un jour, la rumeur de sa mort arrive dans le village. Et puis, quelques jours après, on apprend qu'il est ressuscité parce qu'en fait, quelqu'un a pris le flambeau, a repris le nom et continue à se battre en son nom. Et tout ça fait rêver le jeune Nino. Et un jour, il rencontre un Portugais en fuite qui s'appelle Pepe el Portugues, qui est un personnage très important du livre, qui est un peu mystérieux, qui est réfugié dans un moulin abandonné pas très loin du village. Alors dès que l'école est terminée, le petit Nuno s'en va en courant retrouver son copain Pepe el Portugues. Et Pepe un jour lui montre un livre de Jules Verne. Il n'avait jamais lu de livre parce qu'il n'a pas de livre chez lui, Nino. Son père est garde civil, il n'a pas le temps de lire, il a autre chose à faire. Et il découvre ce livre avec une passion, il découvre que la fiction existe, qu'il n'y a pas que le réel. Et du coup, ça fait basculer sa vie dans une autre dimension. Il se rend compte qu'effectivement, la vie, elle peut être expliquée aussi par autre chose que ce qui est réel, que ce qui est dans le monde concret. Donc ça, à partir de là, il va évoluer, il va grandir, on le suit dans son évolution. On va découvrir comment il traduit tout ce qu'il voit, comment il explique tout ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant. Il découvre des clés de tout ce qui s'était passé avant. Vraiment, on découvre avec lui, on le suit pas à pas et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Je retombe toujours sur ce mot de passionnant parce que c'est le premier qui me vient quand je lis ce livre, quand je vois ce livre. Et quand on le referme, ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de commencer un autre bouquin de cet auteur qui s'appelle donc Almudena Grandes. Et ce livre, Le lecteur de Jules Verne, est suivi d'une série d'autres bouquins du même tonneau qui sont vraiment à découvrir.
Donc voilà pour ce premier coup de cœur littéraire. Deuxième coup de cœur, c'est La nuit derrière moi. Et c'est avec Luc, cette fois.
Oui, alors c'est un coup de cœur il n'est pas dans les dernières nouveautés puisqu'il est sorti l'an dernier, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que par l'histoire qui pourrait être celle de n'importe quel quidam aujourd'hui, qui se rapproche de la vérité, bien que ce soit une totale fiction. Alors l'auteur, c'est Gianpaolo Simi. Gianpaolo Simi est né en Italie, à Viareggio, comme son nom l'indique, bien sûr. Il n'est pas très âgé, puisqu'il doit avoir une cinquantaine d'années. Il a été scénariste, écrivain de romans policiers. Il a même fait de la littérature d'enfance et de jeunesse, c'est-à-dire qu'il est assez éclectique. Le livre « La nuit derrière moi » fait partie de deux ou trois livres de lui qui ont été traduits en français. Pour moi, ce n'est pas un policier, c'est un roman noir. Noir parce qu'il parle de choses peut-être pas très agréables, mais quelquefois qui portent à réfléchir. C'est un roman dans lequel le jour et la nuit, on pourrait dire, finissent par s'entremêler jusqu'à en arriver au bain de sang, où tout se confond dans un genre de clair-obscur et les caractères se révèlent petit à petit. Je trouve que la couverture, quand vous la verrez, est très à propos parce que elle représente une maison éclairée de l'intérieur et un personnage dehors dans la rue qui regarde et qui essaye de voir ce qui se passe à travers les rideaux. C'est vrai qu'on n'arrive pas à s'imaginer quelquefois tout ce qui peut se passer derrière les rideaux d'une maison. C'est l'histoire d'un VRP italien qui représente à lui seul tous les travers du Sud, c'est-à-dire la fierté jusqu'au bout des ongles, la belle femme, la belle voiture, les belles chaussures, la belle carrière, l'argent. Mais malheureusement, cette atmosphère devient suffocante et elle finit par perdre tout son charme et tourner au drame. Si vous poussez un peu votre curiosité en lisant ce livre, vous découvrirez cet homme au sourire et aux chaussures impeccables, mais qui, derrière les failles, se révèle beaucoup plus monstrueux que ce que vous pourrez l'imaginer. On adore d'ailleurs voir comment la lente dégringolade du quotidien parfait de ce bel Italien va le faire devenir un tout autre homme. Il va être amené, sans, malgré lui, à commettre l'irréparable. Et il va le regretter tout le reste de sa vie. Au milieu de ce ménage, il y a une petite fille dont il est évidemment complètement gaga. Hein, c'est son petit trésor et qu'il va être obligé de laisser puisqu'il va être emprisonné et qu'il aimerait bien essayer de retrouver à sa sortie de prison. Alors pour terminer, je dirais simplement les 4 ou 5 premières lignes du livre qui, je pense, le résument assez bien. On dit que beaucoup d'hommes ont une deuxième vie. Je suis l'un d'eux. Il est certain que très peu d'entre eux peuvent la raconter. Je suis l'un d'eux. Mon nom est Furio Geri. Je suis un monstre. Voilà.
Ah oui, en effet. Oula, et ça, c'est dès le début du livre.
Oui, première ligne.
Oh, le ton est donné dès le... Oh là là. Là, franchement, voilà. C'est...
Eh bien, je vous invite à aller le lire parce qu'il se lit très bien.
Oui.
Et comme je vous l'ai dit au début, c'est... on arrive presque à s'identifier au personnage en se disant « mais ça pourrait m'arriver ».
Ah oui.
Parce que c'est pas quelque chose de prémédité, c'est pas quelque chose de il faut pas être, excusez-moi l'expression, faut pas être tordu au départ pour pouvoir vivre ça. Et
oui.
C'est quelque chose qui peut arriver et après on en subit les conséquences.
Mm-hmm. D'accord. Voilà. Donc je suppose que ces deux livres, on peut les emprunter à la médiathèque de Lafitte.
Voilà. Et si y en a un qui n'y est pas encore mais qui va y être, celui de
Almudena Grandes.
Voilà, hein, avec l'accent.
Bien.
Et l'autre y est déjà. Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois.
Coup de cœur musical, c'est un hommage à Chuck Berry.
Oui.
Superbe chanteur.
Ouais, oui, superbe. Et qui nous rappelle plein de souvenirs, pour peu qu'on ait quelques années, quelques décennies derrière nous. Chuck Berry, un hommage, bien sûr, le pauvre homme est décédé il y a peu, puisque c'était le 18 mars. Bon, on va dire, il a bien vécu, il avait 90 ans, ce qui arrive à quelquefois à être rare dans ce genre de métier, parce qu'ils sont souvent usés avant.
Oui.
Par plein de choses. Chuck Berry, ça a bercé notre enfance, notre rock'n'roll, notre blues. Son morceau, bien sûr, le plus connu, c'est Johnny B. Goode.
Mm-hmm.
Tellement célèbre que, pour la petite histoire, la NASA l'a envoyé dans l'espace pour qu'il soit entendu par d'éventuels extraterrestres. Il a été envoyé, codé... dans l'univers, en espérant qu'un jour il y ait un retour. Il fallait quand même le signaler. Mais aujourd'hui, on ne va pas écouter Johnny B. Goode, on va écouter un autre titre, Memphis, Tennessee, qu'il a composé et écrit en 1963. On connaît tous cet air, on connaît tous ce blues. Il est en anglais et bien souvent, on ne va pas chercher plus loin que le rythme et que l'air. Oui. Et si on s'amuse à regarder les paroles et à les traduire, on est surpris parce qu'on se rend compte que Chuck Berry a voulu faire passer quelque chose dans cette chanson. Pourquoi Memphis, Tennessee ? Parce que à cette époque-là, Chuck Berry avait une fille qui avait 6 ans et qu'il ne voyait plus depuis très longtemps et il ne savait plus où elle était. Et un jour, il a reçu un coup de téléphone qui parlait de sa fille et il a découvert que cet appel provenait de Memphis, Tennessee. Et en fait, sa chanson est un genre d'appel auprès des gens de Memphis, Tennessee en leur disant « Si quelqu'un à Memphis, Tennessee connaît ma fille, appelez-moi, j'aimerais recevoir un autre appel de Memphis, Tennessee, etc.
Oui. »
pour retrouver sa fille. Donc ce n'est pas totalement innocent
oui.
et léger comme on pourrait le croire quand on entend les rythmes et l'air. Mm-hmm. Voilà, donc c'est Memphis, Tennessee de Chuck Berry.
Voilà, donc on va se quitter avec ce choix de coup de cœur musical. Merci beaucoup à la médiathèque, merci Luc, merci Catherine. Et donc on se retrouvera le mois prochain.
Eh bien merci à Radio Galaxy, merci à tous les auditeurs et à bientôt.
C'était Au fil des mots, une émission proposée par la médiathèque municipale de Laffitte-Vigordin.